ils sont dissipés. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi à 18h. Très heureux de vous accueillir. On est en compagnie d'une partie de l'équipe de l'émission que je vais vous présenter dans un instant avec leur rubrique attitrée. Et puis nos invités cette semaine, on va parler humour, on va parler séries, et notamment séries dans les années 80-90. Comment ça se créait les séries télé, notamment pour les enfants, les adolescents, et même pas que d'ailleurs pour eux. On va en reparler avec nos invités. Je vous présente celui qui va ouvrir cette émission, qu'on a découvert sur scène il n'y a pas très longtemps, alors que ça fait déjà un an que le public parisien le connaissait. On a rattrapé notre retard et je suis ravi de recevoir Umut Köker qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être là.
Merci à vous.
Je disais, on a découvert ton univers sur scène et on s'est vraiment régalé. Tu joues avec les clichés de tes origines et nos a priori à nous aussi.
Exactement.
Et en ce moment, ça fait du bien.
Exactement, ouais. Je pense avec les temps qui courent, ça fait du bien aux gens, ouais. Moi, ça va parce que je le vis tous les jours. C'est pas si cool pour moi, mais ouais, je pense que l'humour, c'est quelque chose d'important avec tout ce qui se passe en ce moment.
Et c'est fait avec beaucoup d'intelligence, vous allez le voir. On va en reparler dans un instant. À tes côtés, Laurent Lévy, il est réalisateur pour la télévision. Les fidèles de la loi des séries l'avaient découvert avec nous il y a quelques années. On l'avait reçu pour un sujet pratiquement sensible, mais identique. C'était sur les séries télé, notamment dans les années 80-90. Il a façonné ces séries pour les jeunes et les ados. Depuis Les Compagnons de l'Aventure, Les Six Compagnons, jusqu'à Extrême Limite ou Sous le Soleil notamment. Puis il continue évidemment d'œuvrer aujourd'hui, il nous parlera de son actualité tout à l'heure. On va découvrir tout votre univers tout à l'heure, on a plein de questions à vous poser. Mais tout de suite, le sommaire de cette émission avec mes comparses qui seront avec nous, c'est parti. La loi, le club donc, mais pas la loi des séries, le club ouvre ses portes avec Lola et Arnaud qui seront à mes côtés. Avec Lola, on va s'intéresser à un nouvel ouvrage qu'elle va vous conseiller. Normalement, vous aurez envie de l'acheter comme à chaque fois que Lola ouvre les pages de son livre. Arnaud s'intéressera à une vieille marque, une marque qui a bercé tout le monde, c'est Mamie Nova. Et quant à moi, la séquence du téléspectateur va s'ouvrir dans un instant sur une page sitcom voulue par Antenne 2 à l'époque. C'était à l'époque de 19h30 maintenant, qui est occupée par des jeux. Et on va en reparler dans un instant, Manu, tout de suite, puisqu'à la faveur d'une des séries sur lesquelles tu as travaillé, Laurent, qui s'appelait La Babysitter, j'ai découvert que dans les années 80, 1988, notamment France Télévisions, qui n'était pas encore France Télévisions, qui était Antenne 2, avait décidé de lancer une case sitcom à 19h30 tous les soirs, avec une série différente chaque soir.
Absolument.
Sur le modèle des Américains.
Ouais.
On y reviendra tout à l'heure. C'est là qu'a eu lieu la Babysitter. Il y avait d'autres séries qui ont pris place dans cette case. Et grâce à Arnaud, on va se replonger dans ces univers-là. Il nous a retrouvé les génériques de ces séries. Et voici la première, regardez.
Ça va la vie sur un tonton. La vie. Ça va. Ça prend les virages.
Et voilà pour cette première série, à ne pas confondre avec l'émission de télé-réalité qu'on connaît, qui s'appelle Love Story aussi. On est en 88, alors il faut expliquer le contexte. C'est quand même qu'il y a déjà des sitcoms qui existent sur les autres chaînes, depuis quelques années maintenant.
Oui, et puis il y a une volonté de mettre en face des concurrents, quoi, direct, et un rendez-vous pour fidéliser les téléspectateurs, donc avec des personnages comme ça qu'on aime directement et qu'on aime aimer et qu'on aime détester. Donc voilà, ça en faisait partie, effectivement, Love Story. C'était l'histoire d'un homme qui passait des petites annonces pour trouver un colocataire dans appartement, et ça donnait forcément lieu à des situations cocasses.
Ça s'appelait Love Story donc, et évidemment ça répondait à la fois à la présence le dimanche soir à 19h30 de Maggie sur Antenne 2, et puis en face, il y avait quand même Marc et Sophie sur TF1, et Vivement Lundi, avec notamment Bernard Ménez ou encore Elie Semoun. Et donc, on en parlera tout à l'heure, mais ta série La Babysitter prenait place dans cette case-là.
Absolument. Il y avait quatre séries, me semble-t-il, qui étaient... identifiés pour un soir chacune, une soirée chacune.
On en a une autre, tiens, tu veux voir?
Ouais, je veux bien, ça m'intéresse.
Love Story, et il y avait l'appart aussi, qui existait.
Qui était le concurrent.
Qui était dans la même case, mais le soir de la semaine.
Ah, oui,
regardez, c'était ça. Poser des trucs et puis en fait un simple sonnerie d'appartement,
ouais. C'était le but de la sonnette en fait de la porte d'entrée, donc c'était repris dans le générique, ce qui est assez à la fois rigolo et énervant, je dirais.
Ouais, très gonflant,
mais
pourtant c'est un grand compositeur qui est à la manette,
Gérard Calvi
qui est le papa de Yves Calvi, journaliste qu'on connaît bien aujourd'hui pour RTL. Tu redécouvres,
c'est surprenant, et puis surtout ce qui est surprenant, c'est que ça n'a pas du tout vieilli, quoi, vraiment.
Non, pas du tout. C'est pas du tout étiqueté années 80,
ni la musique ni l'image.
Jamais,
non,
monsieur.
Les acteurs sont encore à fond.
Avec notamment Francis Perrin, Roger Pierre, c'est la grande époque. Et Pascal Robert, que le public découvrira quelques années plus tard aussi, redécouvrira dans Plus belle la vie, et qui nous a aujourd'hui quittés. Voilà, on voulait teaser un petit peu avec cette séquence du téléspectateur ce qu'on va dire tout à l'heure avec toi, redécouvrir ces grands génériques. Mais auparavant, je vous propose de rigoler un bon coup avec notre invité, Umut Köker, qu'on a découvert sur scène. Et vous allez voir, c'est un univers qui est absolument fantastique, qui joue avec des clichés, avec beaucoup d'intelligence. Et on va voici un premier extrait de son spectacle, regardez.
D'origine turque et kurde, il y en a ce soir dans la salle? Ils sont jamais là. Ils sont sûrement en train de travailler. C'est vrai que les Turcs et les Kurdes, on a une minorité en France. J'ai grandi qu'avec des Noirs, des Arabes et des Blancs. Et un truc qui m'énervait, comme chaque Turc, à chaque fois que je rentrais dans un kebab, j'avais le droit à cette phrase. Umut, Umut, Umut. Ouais, parle à ton oncle. Et c'était mon oncle. Vas-y, va nous mettre plus de frites. Et il nous mettait plus de frites. Putain, vous avez réduit ma culture à un sandwich, bande de bâtards. Le pays, il est immense, il y a une histoire magnifique. Je dis à des gens, je suis Turc, ils sont là. Mais non, il y a un kebab qui a ouvert à côté de chez moi. C'est-à-dire que nous, les Turcs, on parle aux gens, vous comprenez que ça. Tu sais, c'est quoi la pire bêtise que j'ai entendue dans ma vie? C'est un gars, il m'a dit, Umut, ça te dérange pas, va manger au kebab? Je dis, non, frérot, pourquoi, j'aime bien? Il dit, non, peut-être toi à la maison. Qu'est-ce qu'il croit, cet enfoiré, que chez moi j'ai une broche ou quoi? Quand il est 20h, ma mère, elle nous sert comme ça? Alors, fiston, tu veux manger sur place ou emporter? Oh, mais il est trop mignon, tu veux une canette, tu te sers dans le frigo, mon chéri. Avec mon père derrière, comme d'hab, chef! Je trouve les Parisiens très ingrats vis-à-vis de ce sandwich. J'ai pas envie de le défendre, mais je me rends compte qu'économiquement, on a quand même ramené quelque chose. C'était du pain, de la viande et des légumes pour l'équivalent de 20 francs. 3 euros, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Moi, j'imagine toujours le premier Français devant le premier kebab. Il devait être très surpris, ce monsieur. Il devait sortir de chez lui, il devait être là. Bah, 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 bah. Jésus, Marie, Joseph. Parce que les Français deviennent croyants quand c'est pas cher. Dis wallah. Oh, c'est sorti tout seul, putain. Vous l'avez mangé, le sandwich, vous l'avez mangé, vous avez appelé ça comment? Un grec. Allez vous faire foutre. C'est de l'appropriation culturelle. C'est même pas grec. C'est même pas grec. Je suis allé dans un restaurant grec, je dis, je peux avoir un grec? Il m'a dit, tu me veux moi? Je t'ai là, pas du tout. Allez, merci beaucoup.
C'est...
Yo, yo.
Ouais, c'est comme ça pendant 1h20, le spectacle. Mais pas simplement, on verra un autre extrait tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? C'était de jouer avec... les clichés dont tu es victime et les clichés qu'on a tous en nous, finalement.
L'idée, c'était de reprendre tout ce qu'on pouvait dire sur ma culture, sur les a priori, sur les clichés qu'on a sur les Turcs, les Kurdes, et de les retourner contre les gens. Et de se dire, vous avez limité la culture à ça, moi, voilà comment je le perçois, et voilà ce que j'en fais comme blague.
Et ce qui est extrêmement intelligent, j'ai trouvé, c'est que le spectacle s'ouvre aussi sur les propres clichés, finalement, que tu renvoies aux spectateurs qui sont dans la salle. T'as un Jean-Michel dans la salle, tu lui dis, toi, t'as une tête à être ingénieur, quoi. Enfin, voilà.
C'est ça, il m'a jugé, donc je le juge aussi.
Ouais, mais c'est hyper malin, c'est hyper malin.
Ouais, c'est ça. Forcément, avec ce visage, je suis déjà jugé à l'avance, tu vois, du fait que même j'ai un visage fermé.
J'adore ce moment-là.
Pas parce que je suis méchant, mais parce que c'est juste mon attitude d'avoir cette tête et c'est comme ça et je vais pas me forcer à sourire parce que je déteste l'hypocrisie. Donc je vais pas sourire à quelqu'un alors que j'ai pas envie de sourire. Peut-être je souris intérieurement. C'est un peu bizarre, je souris des yeux, c'est ce qu'on m'a déjà dit. C'est ça, je souris des yeux. Mais oui, c'était vraiment le but de ce spectacle qui s'appelle Paradoxe, c'était vraiment de faire en sorte de prendre tout ce qu'on peut dire sur ma personne, sur mes origines, sur d'où je viens, d'où j'ai grandi, et de les retourner contre les gens un peu et de se dire voilà à quoi vous pensez et voilà la réalité des choses.
Comment on détermine et comment on trouve sa singularité dans un milieu comme le stand-up qui est hyper occupé, enfin, ça doit être compliqué ou pas finalement?
Je pense que c'est assez compliqué parce que pour se distinguer, ça demande du temps, c'est un travail aussi. Se distinguer, je crois aussi, c'est être sincère. Plus on est sincère et plus on se distingue parce que chacun a son histoire un peu à lui-même. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut raconter notre propre histoire et qu'il y a des gens qui se reconnaissent dedans. Et je trouve que c'est la magie de ce métier, quoi. Mais c'est se mettre à nu réellement qui fait qu'on arrive à se distinguer des autres. C'est l'artiste qui est sincère qui arrivera à se démarquer des autres, qui dira les vraies choses, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, l'observation qu'il a de la société, son angle à lui, etc.
Oumoud qui rigole de son parcours, du regard qu'a les autres, il est passé par des moments où c'était compliqué,
bien sûr.
Plus jeune, où c'était douloureux même parfois.
Bah, bien sûr, l'humour c'est une arme. On a le paradoxe du clown triste. C'est un peu une arme, c'est un peu une défense qu'on utilise. Donc je pense que plus on est triste, plus on est marrant, bizarrement. Et plus on a des choses sincères à dire, je crois. Sinon c'est de l'humour de surface ou d'observation. Donc bien sûr, on est tous blessés. Mais je pense que c'est dans l'âme de l'artiste, que ça soit poète, je pense même les réalisateurs, c'est des gens profondément blessés. Et c'est un ego qu'on essaye de... Je sais pas, je peux pas dire que c'est une vengeance, parce qu'il y en a, ils prennent ça pour une vengeance et je trouve ça malsain du coup. Mais c'est quelque chose qu'on vient combler, tu vois, c'est un manque qu'on vient combler, ce désir d'être entendu, d'être vu, d'être compris aussi, parce que souvent on est des incompris, donc voilà, un peu tout ça.
Est-ce que le public, il est différent en fonction des salles? Le soir où on t'a vu au Métropole, tu partais après au Jamel Comedy Club, qui est d'ailleurs, je crois, là, la salle où c'est filmé.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que, grosso modo, le Jamel Comedy Club, le public est plus acquis que dans le Métropole, ou est-ce
non,
que...
Non, non, parce qu'au Jamel, les gens, ils ont une exigence déjà du lieu, parce que les gens viennent voir un lieu avant de voir déjà même les artistes sur scène, parce qu'ils nous découvrent. Et puis de deux, il y a le prix du Jamel. Ouais. Tu vois, donc c'est une troupe, donc c'est une sélection, c'est une direction artistique. Donc je pense qu'au Jamel, il y a peut-être même plus d'exigences qu'à mon spectacle, tu vois. Parce qu'à mon spectacle, il y en a, ils font... Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir, mais aussi il y en a qui savent déjà ce que je fais un peu, ils sont déjà un peu fans. Donc, tu vois, j'ai déjà des gens un peu dans ma poche, quoi. Alors qu'au Jamel, personne ne me connaît. C'est des gens qui découvrent, qui viennent voir une sélection d'humoristes, qui se disent « Ah, bah finalement, j'ai préféré lui, tu vois. » Chacun en fonction de ses sensibilités.
Donc, c'est une vraie remise en danger et en question quand on va...
C'est une vraie remise. Moi, je trouve que c'est bien pour des artistes qui émergent d'être là-bas, parce que ça, c'est comme un tampon d'avoir le Jamel, mais c'est aussi un exercice que chaque humoriste doit jouer, pour moi, jusqu'à la fin de sa vie. Être présent dans les comédie clubs pour pouvoir travailler des blagues, pour être exposé, pour être vu. Tu vois, si je dis que je viens du Jamel, c'est fou, hein, mais j'ai déjà une validation. Mmh. Alors que si je dis que j'ai mon spectacle, les gens font... Oh. Elle est là, la différence, en fait. C'est fou, hein, mais c'est comme ça.
J'imagine que quand on monte un spectacle, soi-même de stand-up, on a dû en bouffer du stand-up vers les autres. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais remarquées chez les autres et que tu t'es dit, ça, mais jamais chez moi. J'en veux pas. C'est pas le genre de truc que j'ai envie d'accéder.
Je pense qu'on parle d'ici plus d'univers, je pense, de ce qu'on peut dire. Après, tu vois, c'est des sensibilités. Moi qui ai grandi dans un quartier populaire, quand tu vas me parler de Naturalia, ça va pas me concerner. Par exemple,
évidemment.
Ça va pas me faire rire, mais enfin, t'as de la chance déjà d'être à Naturalia, quoi. Ouais. Tu vois, c'est fou, tu fais tes courses à Naturalia, quelle chance. Donc en fait, je pense que c'est à la sensibilité de chacun. Et c'est chacun crée son public. Et je me comparerai jamais, à part je me dirais, ah bah peut-être faut pas que j'aille un peu trop vite, faut pas que je parle un peu trop bas, tu vois, sur ça je peux me comparer, sur la façon de parler, mais je ne jugerai jamais le sujet des gens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun propose sa patte artistique, et en tant qu'artiste je trouve que c'est chiant même d'aller dénigrer le travail des gens et de dire oh ce qu'il fait c'est nul, peut-être que c'est nul aujourd'hui, dans 5 ans c'est magnifique, on sait pas. J'ai été soumis à ça, hein. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, c'est pas forcément bon. Et 5 ans après, bravo, félicitations, tu vois.
J'imagine qu'il y a autant de gens qui savent ce qui est drôle que de sélectionneur de l'équipe de France de football. Donc
si ouais, tu bah tu vois, t'imagines. Monde... Heureusement que c'est pas Domenech, la DA du Jamel. Parce qu'on serait pas sorti de là sinon.
Mais ça veut donc dire que du coup, tu t'interdis rien?
Si, bizarrement, par l'éducation, par la pudeur. Si, au début, je m'interdisais beaucoup de choses, tu vois. Et comme je te disais, c'est se mettre à nu qui fait de toi quelqu'un de sincère et ton personnage, en fait. Et j'apprends à retirer ses vêtements avec le temps. Et tu vois, là, je pense que ça va, quoi. On fait le travail comme il faut, mais ça demande un certain temps de ton éducation, de ta culture. Alors, il y a des gens qui sont déjà à l'aise avec ça. Mais moi qui viens d'une famille, mes parents ils sont issus de l'immigration, aller parler de se raser les couilles.
Oui,
tu l'as vu ça dans le spectacle. Voilà. pour un homme comme moi, tu vois, tu te dirais jamais que lui va parler de ça. Mais c'est des choses où je me dis, allez, j'apprends en fait à accepter ce truc de. Ben, en fait, je parle de ça dans la vie, pourquoi j'en parlerai pas sur scène, quoi.
Puis c'est terrible parce que maintenant, quand tu fais ce geste-là, on a tous l'image.
Tu l'as, tu l'as.
Et j'ai mal pour toi. J'ai très, très mal pour toi. Il y a un moment dans le spectacle où tu parles de ton parcours, et notamment de ton parcours de jeune étudiant, en expliquant que Oumout Kocher, il a été aussi étudiant ingénieur. Comme s'il y avait. C'est terrible aussi ce que ça raconte dans notre société. Et comme s'il y avait besoin de le dire. Finalement, dans les paradoxes.
Bah oui, parce que tu ne te dirais pas. Tu ne te dirais pas à première vue, waouh. Tu vois, moi, quand je lis un livre, la première réaction des gens, c'est « Ah, genre, toi, tu lis un livre. » Genre, c'est fou, hein. Alors que j'adore lire des livres, quoi. Tu vois, je lis constamment. Mais il y a un jugement, déjà. Beaucoup de gens se font... Je sais pas, sûrement les infos, sûrement le monde dans lequel on vit, sûrement ce qu'on nous envoie à la télé, ce qu'on nous dit tous les jours. Alors qu'en soi, quand on regarde même l'évolution du monde, tu prends l'école, tu prends l'université, c'est la base, ça vient de la Syrie, ça vient de, enfin, tu vois, il y a pas mal de choses qui émergent du Moyen-Orient. Et je sais que j'ai une tête très orientale, malgré que je sois turc.
Alors justement, on va en voir un petit extrême. Mais moi, ce que je me dis quand je t'ai vu sur scène, très objectivement, ingénieur ou pas, j'ai presque envie de dire, c'est anecdotique parce qu'on peut ne pas avoir été ingénieur et être extrêmement intelligent. Par contre, quand on t'entend parler, je trouve que ce qui saute aux yeux ou à l'oreille immédiatement, c'est que ce gars-là, il est intelligent.
Ah, c'est gentil.
Et ça part. Non, mais c'est un mec, c'est vraiment un mec, on sent qu'il y a de la culture, qu'il y a quelque chose, et enfin de la culture, qui a sa culture ou de la culture, j'en sais rien, mais qui en tout cas, c'est un mec qui est posé, c'est un mec qui est intelligent, et je colle pas d'idées reçues quand je te vois. Je me dis. Ça marche tout de suite, quoi.
C'est sympa. Tu les as pas, ces a priori.
Non, mais par contre, il y en a qui les ont. Et ça donne un moment qui est savoureux sur scène.
Ouais.
Regardez.
La tête. Vous avez dit quoi? Ils ont envoyé le méchant ou quoi? J'essaie de mettre toujours une bonne ambiance, parce que je sais que j'ai un faciès qui me permet pas de laisser de longs silences. Ça, c'est mon ex qui me l'a répété à chaque fois. Il me disait, stop là, Oumout, quand tu me regardes, parle. Articule, fais quelque chose de ta bouche, parce que quand tu parles pas et que tu me regardes, je sais pas à quoi tu penses. Mais j'ai l'impression que t'as envie de tuer toute ma famille. Je sais pas si c'est un bon choix marketing d'avoir cette tête et faire de l'humour. J'ai des doutes quand j'allume ma télé. J'ai deux fois plus de doutes quand je vais sur les chaînes d'infos. On peut être honnête, ce soir le Jamel, à chaque fois qu'on voit quelqu'un à la télé qui me ressemble, c'est jamais pour les bonnes raisons. Jamais ça s'est fini rubrique divertissement avec le journaliste qui vous dit Abdelhamid, spectacle explosif. Hein. En plus, quand je vois votre humoriste préféré en 2024, ça me rassure beaucoup moins. C'est Paul Mirabel. Dites-le que je suis dans la merde. C'est mon opposé marketing Paul, ouais. Si Paul il a dit je me suis fait racketter, c'est moi je l'ai racketté dans l'histoire. Je suis conscient actuellement, avec tout ce que les médias vous disent, j'ai un rôle important dans la société. Il y a plein de choses que je peux plus me permettre de faire. Notamment rester fixe pendant 5 minutes sur une place publique. Je suis le maître d'ambiance. Si je stresse, tout le monde stresse avec moi. Regarde, une fois je suis dans le métro parisien, on est 5 dans le wagon, ok. Il est minuit, je me tiens à la barre, je m'endors, ça arrive. Au dernier moment, je me rends compte que c'est ma station. Je décide de courir. Les 4 autres, ils ont couru avec moi. Je dis, vous habitez là, gars,
il faut quand même une sacrée dose à la fois de second degré et en même temps d'intelligence pour être conscient de ces paradoxes et s'en amuser finalement.
Bien sûr.
De ces clichés-là.
Bien sûr. Faut s'en rendre... En fait, il faut écouter ce que les gens disent de toi. C'est une grande écoute. Moi, je reniais cette apparence de méchant. De base pendant très longtemps même, parce que j'ai grandi avec des gens qui me ressemblent. Tu te doutes bien que je fais peur à personne dans ma famille. J'ai des oncles qui font bien plus peur que ça. Mais en fait, c'est en étant confrontant beaucoup au public que je me suis rendu compte que il y a un truc à dire sur l'apparence en fait. tu vois, ce truc de un peu, ah, ça peut être méchant, ça peut être perçu comme, comme je sais pas, un peu agressif, si je parle pas, c'est, j'ai un visage un peu dur, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est ce que les gens me renvoient qui me font un peu mal, bah, finalement, je vais le prendre et je vais m'en amuser, quoi.
Et au-delà de l'apparence, il y a aussi les clichés qu'on nous renvoie quand on vient simplement d'une cité.
Oui.
De ces univers-là, tu en parles beaucoup dans le,
oui, oui,
dans
c'est
le
ça.
Truc. Et quand tu parles de tes cousins, on entend trois gamins qui s'amusent.
Ouais.
Mais les gens qui, pour beaucoup de gens, ils entendent trois gamins qui foutent le bordel, quoi.
Oui.
Donc c'est ça le paradoxe aussi.
C'est malheureux de déjà juste le nom cité, il soit devenu péjoratif. Alors qu'à la base, on appelait ça une cité quand on vivait dans un endroit. Mais
c'est quelle cité ? Il faut quand même la citer.
La Sémaroise, à Limeuil-Brévan. Mais c'est où passe le téléphérique, d'ailleurs.
Ah oui, ouais, très
juste
bien.
Juste au-dessus. Ouais. Ouais, on survole les pauvres. C'est plutôt cool.
C'est joli.
C'est important pour moi de parler du quartier, juste pour dire que dans des quartiers, il n'y a pas malheureusement que des gens violents, des gens qui cassent. Il y a aussi des gens qui essayent de s'en sortir et... Je ne vais pas dire qu'on est des victimes parce que les gens qui cassent, c'est, je ne vais pas te mentir, hein, c'est, ça peut être mes copains, mais on essaye de raisonner certaines personnes. Certains comportements sont liés aussi à un problème systémique. Et ça, on ne le souligne pas assez. On dit toujours, ah, c'est de la faute des gens et des gens et des gens. Mais on s'en rend pas compte en vrai à quel point on est dans un système où malheureusement, les gens qui sont en bas sont poussés vers le bas. Et on essaye de faire soi-disant des choses, mais pas des choses concrètes. Et j'ai grandi dans un quartier... Et si je n'ai pas la chance d'être à l'école sur Paris, je ne me rendrai pas compte des opportunités que j'aurais pu avoir. Et en fait, arriver à l'école sur Paris, pour moi, ça change ma vision des choses. Je ne me dis plus, je suis enfermé dans des blocs de pierre. Je me dis, ah, en fait, finalement, il y a autre chose à voir que ce petit bout de terrain que j'ai en bas de chez moi, où là, finalement, je me sens un peu accepté. Donc, je vais être confronté à des gens, je vais être confronté à des personnes. Je vais parler ma langue, enfin, mon langage à moi, qui sera un peu différent, mais je vais faire en sorte de me faire comprendre. Et il est là le plus grand combat. Tu vois, c'est souvent quand on parle de langage, les gens d'en bas vont s'adapter aux gens d'en haut, mais les gens d'en haut ne vont pas faire l'effort de s'adapter aux gens en bas. Ils vont pas essayer de parler la même langue, de les comprendre. Alors il y en a, ils le font, tu vois, mais il y en a très peu qui le font. Donc c'est toujours à nous d'aller faire ces efforts-là. Et je trouve ça un peu chiant même des fois à la limite. Et parce que t'es catégorisé, t'es forcément jugé, on va forcément te dire toi parce que t'as dit un wesh, que t'es un wesh wesh, que t'es quelqu'un de comme ça, alors que ça ne veut absolument rien dire, tu vois. Moi, un artiste que j'adore, c'est Renaud. Voilà, Renaud, il parle comme un gars des quartiers populaires et waouh, quelle chance d'avoir Renaud en France.
Et il faisait polémique à l'époque.
Et il faisait polémique.
Quand on entendait parler,
exactement.
Il y a un aspect dont tu ne parles pas dans le spectacle, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander si tu ne l'étais pas un petit peu finalement. Tu parles des autres, mm-hmm. tu parles de toi, mais pour les paradoxes qui sont les tiens. Mm-hmm. J'ai l'impression que tu aurais pu être un grand frère dans cette cité. Est-ce que tu l'as été ?
J'ai une mentalité comme ça, parce que j'ai été le grand frère de pas mal de mes cousins dans ma famille. Tu vois, j'ai beaucoup de cousins, mais ce qu'on... plus jeune que moi, donc j'ai toujours eu ce rôle de grand parce que c'était moi le plus grand. Et c'est important pour moi aussi de parler aux jeunes, tu vois, de leur dire les choses, de leur faire comprendre aussi le monde dans lequel ils vivent. Parce que dès que tu es, t'as une tête un peu, t'as la pommade ou t'es noir, si tu vas faire quelque chose, on va dire, ah regarde, encore les mêmes. Alors qu'il a le droit de s'énerver, il a le droit de lui aussi dire qu'il est mécontent, tu vois. Comme ils disent, nique ta mère, c'est du rap à message. Tu vois, il y a un rappeur qui dit ça en vrai. Bah oui, si je te dis ça, même si c'est vulgaire dans la forme, le fond, ça veut dire quelque chose. Et les gens vont pas chercher le fond. Ils se disent, oh bah il a dit ça, il est juste vulgaire. Oui, mais peut-être qu'il y a une raison de pourquoi il le dit. Et ça, on va jamais chercher quoi. Brûler des voitures, je suis désolé. Hein. Mais si un jeune se met à brûler une voiture, il sait que ça va être le seul moment où on va parler de lui. On va pas se dire, mais pourquoi il brûle pas par plaisir. Il brûle parce qu'il a quelque chose à dire et qu'en fait, s'il brûle pas cette voiture, personne va lui tendre le micro pour dire, mais t'en penses quoi ? Parce qu'on s'en fout, en fait. Quand on arrive à un certain âge, je me rends compte que les gens s'en foutent. C'est du mépris de classe qu'on fait. Et ça, les gens n'essaient pas de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est dommage, tu vois, parce qu'on perd en empathie. On se dit juste, ah bah tiens, tant mieux. Des gens sur qui on peut taper, c'est facile. Allez, ça nous arrange, ils sont noirs et arabes. Mais le problème de la France, c'est pas que les Noirs et les Arabes. Enfin, on se doute bien,
ça
quoi.
Ça saurait.
C'est ouais. Logique, quoi. Tu vois, j'avais une blague comme ça où je disais, mais Sarkozy, il a pris une peine plus longue que tous mes potes. C'est la réalité. Et il a fait que 21 jours de prison, tu comprends ? Donc, c'est important pour moi de le dire.
Tout à l'heure, je te demandais pour si tu t'interdisais des choses. J'entends ce que tu dis sur le rap et sur le fait qu'il y a toujours un message derrière cette vulgarité-là.
Bien sûr, bien sûr.
Au-delà de ce qu'on s'interdit soi-même
ouais.
et qu'on ait son propre censeur,
ouais.
je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question parce que je trouve qu'on en parle beaucoup en ce moment.
Ouais.
Moi, je pars du principe que même si ça doit nous déranger et si ça, on ne doit pas aimer, je pense que l'art, quel qu'il soit, ne doit pas être censurable. Est-ce
malheureusement,
que tu partages ça ou pas ?
Mais bien sûr. Mais le problème, encore une
fois... On doit pouvoir tout dire, même des horreurs dans l'art.
Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi parce que c'est une forme d'art. En fait, tu ne demandes pas à un peintre de dire « Non, mais change ça, le noir, c'est très agressif, tu comprends ?» Il peint ce qu'il a envie de peindre. Mais malheureusement, encore une fois, si on revient sur du jugement, si moi, je dis un gros mot, et reprenons l'exemple de Paul. Si Paul dit un gros mot, lui, ça sera « Waouh, incroyable !» Moi, ça sera « encore un de plus qui insulte. Ah, encore un mec vulgaire. » Tu vois, en fait, on est directement catégorisé dans quelque chose. C'est, moi, je ne peux pas me permettre de faire trop d'insultes dans le spectacle. Parce que sinon, ça va être « Ah, bah regarde, c'est cliché. » Mais pourquoi c'est cliché, en fait ? Pourquoi, genre, moi, je n'ai pas le droit d'insulter et l'autre, quand il insulte, « Waouh, il sort de sa zone de confort. Regardez, c'est un génie. » Non, c'est fou. C'est fou. Et donc, du coup, on doit faire même très attention à ça. Tu vois, moi, je suis conscient que quand je présente ce spectacle, aujourd'hui, s'il est critiqué par Le Masque et la Plume, ou s'ils se permettent de faire des bonnes critiques, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose de se dire « Ah bah, enfin quelqu'un qui parle de cette façon-là ou qui dit les choses de cette façon. » Mais je suis un exemple comme tant d'exemples en vrai dans un quartier. Il y en a tellement. Et du coup, c'est cool parce que ça me va parce que ça me permet aussi de montrer un aspect ou un côté du quartier que les gens n'ont pas vu. Tu vois, donc quand quelqu'un va voir mon spectacle, il dit « Ah bah, j'ai eu des jugements un peu trop vite. » j'ai pas pensé aux gens qui vivent dans une cité, tu vois. Un bâtiment, c'est grand. S'il y a 8 étages, il y a au moins 50 familles dedans, mais ça, on s'en rend pas compte. Et parmi ces 50, il y en a peut-être un, son fils, il va les casser, il va faire des trucs, puis il va aller en prison. Mais le reste des gens, des gens qui se réveillent à 5 heures du matin. Tu sais, moi, j'allais à l'école sur Paris, donc je me réveillais très tôt. J'étais avec des ouvriers, quoi. Il n'y a rien d'autre, hein, 6 heures du matin dans le RER. Il n'y a pas quelqu'un avec une chemise qui a un beau travail, tu vois. C'est soit des gens qui nettoient, soit des gens qui font la sécu, ou soit des gens, voilà quoi, des ouvriers, quoi. Et on ne pense pas à ces gens-là. Et c'est important pour moi de dire aussi qu'il y a ce genre de personnes dans des quartiers.
Et c'est tout ce que vous allez entendre sur scène et qui fait du bien, parce que c'est dit avec finesse et intelligence. Et quand on l'entend, je ne sais pas, Laurent, ce que tu en penses, mais on se dit que ce garçon-là, c'est quand même quelqu'un qui fait du bien, quoi.
Bah oui, moi je trouve, d'abord j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter. Je trouve que se lancer déjà dans le monde de la comédie, c'est quelque chose de très audacieux, et se lancer dans le monde de la comédie avec derrière un engagement, je dirais pas un engagement politique, mais l'envie de l'envie de d'affirmer des choses sur la société dans laquelle nous vivons, et c'est un risque énorme. Et c'est aussi prendre le risque, me semble-t-il, de ne pas aller forcément vers un humour partagé par tous.
Oui.
Et là-dessus, moi, j'ai très envie d'aller te voir maintenant parce que moi, j'ai envie de voir si tu es aussi drôle que ce que tu es intéressant,
ouais.
Tu vois.
Oui.
Mais je te trouve très courageux, en tout cas, de te lancer dans cette voie-là. Et vraiment, merci de nous, découvrir
avec plaisir,
voilà,
avec
de te découvrir comme ça.
C'est le but, hein. On est inspiré par des Bourvilles, par les Coluche, et c'est pour moi l'essence même de l'humour.
Ouais.
On oublie qu'il y a un enjeu important avec là, même les temps qui courent. Faire passer des messages avec des blagues, c'est toujours un peu plus facile. Enfin, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus dur pour nous de créer vis-à-vis de ça, mais c'est toujours un peu plus facile de faire comprendre à des gens leurs torts, quoi.
Et tu as... une petite chose. Tout à l'heure, tu as évoqué aussi quelque chose qui touche aux techniques de travail de la comédie.
Ouais.
Est-ce que tu travailles seul ? Est-ce que tu t'es formé tout seul ?
Ouais,
ou est-ce que tu as été...
Alors moi, je me suis formé tout seul parce que j'ai un peu un esprit un peu, je vais pas dire, ouais, geek. J'ai un petit truc où je suis focus sur des choses. Si on me tend pas le savoir, je vais aller le chercher parce que c'est dans mon éducation. On t'a pas appris, il faut aller le chercher. Donc effectivement, à mes débuts, je regarde énormément de shows, mais genre 7-8 fois de suite, pour comprendre cette espèce de mécanique. Et puis après, ça ne s'arrête malheureusement pas qu'à l'écriture. Il y a aussi le travail de voix, il y a aussi la présence scénique, tu vois, que je continue à travailler d'ailleurs, parce que je trouve que j'ai des lacunes, et c'est tout le temps une remise en question. Et enfin, je pense qu'entre réaliser et jouer, il y a quelque chose qui se ressemble.
Bon, on est très cousins. Hein.
Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se ressemble, ouais, énormément. Mais c'est la répétition, c'est comme des entraînements, en fait.
Oui.
Ouais, et c'est la répétition, et c'est important de se remettre en question, je pense. c'est ce qui fait qu'un artiste il avance ou pas.
Et il travaille avec Walidia, on l'a pas dit.
Exactement.
Sur scène, c'est voilà, un des grands noms de, ouais, un des grands noms de l'humour. Avant peut-être de laisser partir et Oumoud peut-être pour aller travailler parce qu'il est ce soir sur scène. Et toi, Lola, puisque tu disais que tu lis beaucoup.
Oui.
On va te tendre la main grâce à Lola, qui est notre conseillère. Elle fait toutes les semaines, elle recommande des livres aux jeunes, notamment sur les réseaux sociaux et pas les, que les jeunes. Et ici aussi. Et tu t'es intéressée à un livre cette semaine particulier, c'est quoi ton choix?
Le vol vers le sud, aux éditions La Peuplade de Lisa Ritsen, qui est une autrice qui est suédoise. Et juste avant, je veux dire juste un petit mot parce que je t'avais vu, j'avais vu beaucoup beaucoup d'extraits et je trouve ton travail hyper intelligent et hyper hyper agréable. Et même dans, alors dans plein de domaines, je pense notamment au théâtre, les choses sont en train de bouger vraiment, notamment avec le travail de Tigrane Mkhitaryan qui est trop chouette.
Un ami à moi aussi.
Et qui est extraordinaire, et que j'avais pu rencontrer, et qui est juste trop bien, et qui a créé cette pièce au théâtre Antoine, qui a fait Le Misanthrope. Et c'est juste trop bien, parce que c'est justement ce parti pris de dire, ok, bah, on va mettre cet univers-là de quartier dans du Molière, et qu'est-ce que ça donne? Et c'est juste extraordinaire de voir tout ce public qui s'éclate sur scène et tout. Donc voilà, petit coucou à Tigrane.
C'est vraiment extrêmement bien, Tigrane, ce qu'il fait.
Et pareil, c'est hyper intelligent, c'est hyper. Donc je suis trop contente que ça bouge et qu'il y ait des personnes comme ça qui viennent changer les choses. Et qui
c'est important.
Tout à fait. Donc je reviens à ce.
C'est très bien de l'avoir souligné.
Bravo.
Mais qui est un livre qui est extrêmement émouvant, en fait, qui est un livre qui nous emmène dans un village suédois où on va suivre les derniers mois de vie d'un homme, d'un vieil homme qui vit avec son chien. Et c'est un roman qui est très très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de romans qui parlent de la fin de vie, qui parlent des aides à domicile notamment, qui viennent aider ces personnes qui sont en fin de vie. Et c'est un roman qui est très beau parce que en fait ça va se construire sous forme de carnet de bord, comme si, enfin les carnets par exemple des aides à domicile, on dit à telle personne à manger telle chose le matin, etc., il est allé faire telle balade, etc. Et donc on va suivre ce carnet, qui est un vrai carnet en réalité, de Lisa Ritsen, qu'elle a retrouvé, un carnet qui appartenait à son grand-père, qui a eu justement ses aides à domicile. Et donc elle va raconter l'histoire de Beau, qui est un vieil homme qui vit avec son chien, et qui a un fils, et c'est très beau parce qu'au début on se dit, ok, ça va être un peu long, si jamais il nous raconte ses journées où il se passe rien, et en réalité il se passe mais tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'il va construire son quotidien en fonction d'un appel avec un ami qu'il a eu de très longue date, en fonction de ses souvenirs, et petit à petit, plus on avance ces dernières semaines, et plus en fait c'est un univers foisonnant de souvenirs qui va revenir, de lui qui se dit, ok, je vois telle chose qui me rappelle, il retrouve un objet dans sa cave ou dans une boîte, et il se dit, ah, c'est dingue, c'était un road trip que j'avais fait avec mon meilleur ami, et petit à petit on va avoir tous ces souvenirs d'enfance, d'adolescence, de vie, et on va avoir cette figure de son fils qui s'appelle Hans, qui est un homme qui est très occupé et qui en réalité va vouloir s'occuper quand même de son père, et il va aller le voir. Malheureusement, on sait à quel point le delta peut être difficile entre un homme qui est très occupé, qui veut s'occuper de son père, qui peut passer quelques fois par semaine et qui donne tout pour venir le voir, et un vieil homme qui se dit, mais j'ai toute la journée, pourquoi est-ce qu'il vient pas me voir, je m'ennuie, pourquoi est-ce qu'il est pas là pour moi alors que c'est mes dernières semaines, alors que cet homme vit un peu l'apogée de sa carrière et il peut pas donner son temps à son père. Et il y a un rapport qui s'inverse avec cet homme qui devient finalement le père de son père, puisqu'il est obligé de s'en occuper, il est obligé parfois de le punir, parfois de le censurer, parfois il y a tout un sujet autour du fait de lui retirer son chien, parce qu'il est plus capable de l'emmener se promener, etc. Et donc c'est ce rapport-là de voir déboulonner un peu la statue du père qui devient l'enfant, et dont on s'occupe parce qu'il y a cette vieillesse qui arrive. Et il n'y en a pas beaucoup des romans sur la vieillesse et sur la solitude de la vieillesse, et sur l'isolement que peuvent justement ressentir ces personnes âgées qui sont toutes seules, et qui ont quand même cette présence des aides à domicile. Parce que c'est un joli hommage aux aides à domicile qui sont extraordinaires pour ces personnes âgées qui sont toutes seules. Donc voilà, c'est un très très joli livre. Il s'appelle Les Grues volent vers le sud, aux éditions La Peuplade, avec une traduction du suédois par Catherine Renaud, de Lisa Ritsen.
Lisa Ritsen, je crois qu'on a une photo, c'est elle.
Tout à fait, c'est elle.
C'est elle, voilà, l'autrice.
Et qui est basée du coup sur l'histoire aussi de son grand-père, dans un village suédois. On voit un peu le paysage et tout, c'est très joli. Et c'est hyper engagé, c'est très, très beau comme roman.
Bon, voilà, un livre encore à dévorer.
Ça
est passionnant, effectivement. Ouais. On va passer à la deuxième partie de cette émission. On va quand même en profiter tous les deux, peut-être, pour vous laisser nous quitter. On va le faire au travers d'une vidéo qu'on va voir maintenant, qui va lancer la partie avec Laurent. Mais je tenais encore une fois à te dire que c'était un plaisir de te recevoir, que le garçon est bourré de talent, et surtout qu'il est extrêmement sympathique, et ce, malgré le fait qu'il ait la tête qui nous dit qu'il a, et malgré le fait qu'il ait une casquette avec un Rottweiler dessus, histoire de renforcer le truc. Et non, il a la totale, en train de se dire, je suis méchant, mais en fait, c'est un talent, un vrai talent. Et ça fait plaisir de l'avoir avec nous.
Plaisir,
merci à Léo qui était avec toi, qui était accompagné, qui était en régie. Bonjour. Et puis, on se continue dans un instant. Et là, avec toi, mon cher Laurent, on va pénétrer dans ce parcours et dans ces séries-là. Et là, Arnaud, c'est à nouveau surpassé avec le générique de cette série sur laquelle tu as œuvré, la Babysitter, qui l'a retrouvée. Je te laisse la découvrir tout de suite et on revient dans un instant. Merci à tous les deux. Merci Malola, je suis affilée aussi. On se retrouve très bientôt.
Merci,
au
plaisir. Merci.
La Babysitter, une série que moi je ne connaissais pas et que j'ai découvert.
Ouais.
C'est une des premières séries sur lesquelles tu as travaillé alors ?
Je pense que c'est la première série sur laquelle j'ai travaillé, même c'est la première fiction télé officielle. C'était pas du prime time, c'était de l'Access prime time, me semble-t-il.
19h30, bah, c'est dans 19h30, la case sitcom. Hein.
C'était la case sitcom, c'était de l'Access. Et auparavant, moi j'avais fait des petites choses. Hein. J'étais un réalisateur quasi débutant. J'avais fait des petites choses avec un producteur qui s'appelait Quentin Raspail. J'avais fait un grand nombre de documentaires et j'avais écrit des choses pour lui. Enfin bon, voilà. Et puis j'avais été repéré à ce moment-là.
Pardon, je me dois de le citer, Quentin Raspail, qui a été pendant très très longtemps le président du festival de la fiction télé de La Rochelle et de Saint-Tropez.
Ouais, et qui est le premier qui m'a mis le pied à l'étrier en fait en tant que producteur. et donc, si je me souviens bien, j'évoque un petit peu comment ça s'est passé. Il y avait une personne qui est devenue une amie par la suite, qui s'appelait Simone Girard, qui était productrice, qui travaillait avec Laurence Bachmann. Laurence Bachmann,
la grande productrice de fiction.
Productrice de fiction, qui a également été directrice de la fiction de France 2. Et Laurence Bachmann travaillait avec Jean-Pierre Guérin chez GMT, grand producteur aussi.
Aussi.
Jean-Pierre Guérin, et donc ils m'ont sollicité pour...
Je me déplace, mais parce que c'est l'école des fans, il faut qu'on t'entende bien pour Laurent.
Ouais, pardon. Et donc voilà, je me suis retrouvé tout jeune réalisateur, pas débutant, mais presque débutant. J'avais fait un clip, donc ces émissions pour Quentin Raspail, des documentaires. Et je me suis retrouvé à faire une fiction quand même assez importante avec des acteurs et une grosse production. Et voilà comment les choses se sont passées. Et quand je vois ce générique, ce qui me frappe, pour citer une petite anecdote, c'est qu'au tout début de la production, c'était pas Véronique Boulanger qui était l'actrice vedette par la suite, c'était une autre comédienne qui s'appelait, je crois, Corinne Cooper, me semble-t-il. Et on la voit
dans le générique.
On la voit là dans le générique. Et alors, je sais pas si le générique a bougé par la suite, je m'en souviens pas. Mais il y a les deux. Il y a Véronique Boulanger et Corinne Cooper dans le générique de début.
Donc, et Emmanuel Boisdron qui était dans la...
Emmanuel Boisdron faisait partie... parce qu'en fait, c'était... Je crois qu'il y avait quatre familles. Donc, quatre familles qui étaient représentées, qui étaient toutes des familles qui étaient... qui recevait la même babysitter, Véronique Boulanger. Et les quatre familles, c'était Pierre Vernier, Valérie... Pierre Vernier, Charlotte de Turckheim, Jean Benguigui, Valérie Mérès. C'était deux couples avec des enfants chacun. Et la famille dans laquelle il y avait les enfants, dont... dont Emmanuel Boidron. Je crois que c'était la première famille avec Pierre Vernier. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais de mémoire, c'était. Ouais, c'est ça. Il y avait une autre famille avec Héloïse Roth aussi, qui était la fille de Christian.
Christian Roth, oui. Oui, tout à fait.
La fille de Christian Roth.
Navarro est toujours en pole position. Parce que
c'est vrai.
Ils seront ensemble dans Navarro un an plus tard.
Ouais, c'est vrai. Et voilà, je ne sais plus ce qu'on disait, mais effectivement...
Une belle distribution.
Ouais, belle distribution. Ouais. Et puis, oui, effectivement, il y avait une distribution théâtre, très théâtrale, me semble-t-il. Il y avait une dame qui s'appelait Yvonne Clesch, qui n'est plus de ce monde, mais qui était une grande actrice de théâtre. Il y avait Vanik Le Poulain, donc Pierre Vernier, on en a parlé, qui faisait partie de la troupe du Conservatoire et Belmondo. Ouais.
C'était Rocambole ? Non,
c'est... Rocambole. Pierre Vernier, Rocambole.
Qui nous a quittés l'année dernière.
Absolument. Ouais. Patrick Préjean aussi, qui était un grand acteur de théâtre et aussi un grand second rôle du cinéma français. Et puis Valérie Mérès, qui était une actrice importante du cinéma. Charlotte de Turckheim, qui était aussi une grosse distrib pour l'époque. C'était pas mal, quoi.
C'est vrai que cette sitcom, elle a pas eu malheureusement le succès escompté, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y avait une volonté d'avoir des gens qui maîtrisaient l'art de la scène pour pouvoir répondre à cette exigence
de comédie,
d'une sitcom à l'américaine, et d'une comédie, et que finalement cette série là en tout cas fait presque office d'ovni par rapport à celles qui vont venir par la suite, et notamment la prochaine. Je crois que tu vas participer à sa création. On va entendre le générique, on va l'écouter, mais regardez, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs.
Okay. C'est sans doute un jour de chance quand t'as cours de passion, quand t'as cours de violence, on se pose des questions. Les îles qui nous habitent rigolent doucement de nous voir grandir si vite, plus vite que le vent sur nos vies. Que faut-il faire quand nos cœurs se serrent? Pour qui on vit, à quoi on sert? Pour mieux vivre, mieux faut-il vivre demain ou hier? Mais pour bien faire, que faut-il faire quand nos cœurs se serrent? Pour qui on vit, à quoi on sert? Pour mieux vivre.
Eh ben voilà,
incroyable.
Eh, c'est pas mal, hein?
Ouais, pas mal.
Pas mal, salut Léomar.
Jean-Marie Léo, compositeur, ouais. Il en a fait un paquet, Jean-Marie, à cette époque-là.
Et alors, la particularité quand même de cette série, c'est que le public décidait de la suite.
Ouais, c'était une fiction dite interactive.
On votait par Minitel, c'est ça ?
Alors, on votait par Minitel, c'est-à-dire que le film, enfin l'épisode de la série était diffusé en fin de semaine, je crois, le samedi, en fin de journée. Me semble-t-il.
Le samedi, oui.
Ouais. Et, les téléspectateurs, on disait téléspectateurs.
Joli mot.
Un joli mot. Avaient jusqu'à minuit, me semble-t-il, jusqu'au samedi soir minuit, pour voter. Et oui ou non, êtes-vous d'accord pour que Gérard épouse Jacqueline?
Il y avait deux fins possibles, je crois.
Il y avait deux propositions qui étaient faites aux spectateurs. Ils votaient oui, je suis pour cette option-là, ou non, je suis pour l'autre option. Et ensuite, les scénaristes et l'équipe, toute l'équipe, la production, tout le monde se remettait au travail dans le week-end. Et le lundi matin, on rentrait en préparation, c'est-à-dire qu'il y avait un scénario qui était remodelé. Bon, évidemment, je suppose qu'ils avaient quand même des bases, une structure. Mais le lundi matin, l'équipe technique se remettait au travail, donc moi à fond, tout le monde à fond, dès 5h du matin, on était déjà sur le pont. Et on rentrait en répétition avec les comédiens, on répétait je crois le lundi et le mardi, avec les modifications d'usage. Et ensuite, on tournait le mercredi, jeudi, vendredi post-production, montage, etc. Et blanc, ça partait jusqu'à la fin de la nuit. Hein. On travaillait jusqu'à 6, 7 heures, 8 heures du matin pour livrer aux diffuseurs qui n'avaient pas le temps, j'imagine, de faire ces corrections, comme aujourd'hui.
Évidemment.
C'est ça qui était dingo aussi. On peut imaginer qu'aujourd'hui, un diffuseur aurait du mal peut-être à accepter un processus de fabrication où il n'aurait pas quand même une vision et un contrôle absolu. Là, ça me paraissait difficile parce que, vu les délais de fabrication et les délais de livraison, je pense que...
C'est infernal, quoi.
Mais c'était comme fabriquer un journal, en fait. C'était vraiment comme fabriquer un journal. C'était absolument passionnant pour tout le monde. Et on s'est vraiment régalé. Moi, j'ai pas fait la... Il y a eu, je crois, de mémoire trois époques de Salut Léoma. Il y a eu une première saison d'une dizaine d'épisodes réalisée par un autre réalisateur, et ensuite on m'a appelé pour remettre le projet un peu au goût du jour, enfin au goût de mon jour, ouais. En disant le générique a changé, on a changé pas mal de choses, le casting a été un petit peu modifié, et moi j'en ai fait un certain nombre, je sais plus combien d'ailleurs. J'en ai fait un certain nombre, et ensuite sont arrivés, ils ont décidé d'industrialiser un petit peu plus les choses. Là, on faisait un épisode par semaine, tout compris. Je crois qu'ils sont passés à deux épisodes par semaine, ce qui dans le monde d'aujourd'hui est encore assez extraordinaire. Mais moi, j'ai eu la chance de faire cette série comme ça, dans des conditions absolument incroyables.
Faut quand même que les gens se rendent compte, en fait, grosso modo, c'est toutes ces productions qu'on parle là, en fait, elles ont fait le pont entre la télévision dite des années 80, c'est-à-dire à la Vivement Lundi, Maggie, qui ont été assez dominantes en termes de comédie, ouais. Jusqu'à, grosso modo, l'arrivée des sitcoms AB au début des années 90, qui après ont un peu monopolisé tout, notamment oui. Sur TF1. Certains de ces programmes, dont on va parler dans un instant, ont habillé les émissions du Club Dorothée. Et ensuite, il y a eu une deuxième génération qui a monté celles et ceux qui ont permis de faire la bascule dans ce qui sera après l'après Club Dorothée. Mais parmi les personnages que tu as eu la chance de mettre en scène, il y a ceux qu'on va voir là, le générique qui va être une série qu'on découvrira au début du Club Dorothée, mais qu'on découvrira aussi avec une autre distribution, dont Emmanuel Boidron derrière, Les Compagnons de l'Aventure, ça s'appelait, mais à l'époque, ça s'appelait encore les Six Compagnons et Michel, notamment avec Fabrice Josso. Mais Les Six Compagnons, souvenez-vous, ça va forcément vous rappeler des souvenirs. Ah, ça, pour, ah, tous ça, les petits, cool, ça. Pour tous les petits garçons qui ont grandi dans ces années-là, moi je disais Les Six Compagnons, tu as
bien sûr. Ah, la Bibliothèque Verte, bien sûr, on a tous grandi avec ça, et c'est comme le Club des Cinq un petit peu à visiter. Ouais, c'est top.
Et c'est toi qui as réalisé celui-là?
J'ai réalisé celui-là, il y en a eu, bah, je crois qu'il y avait cinq, je crois qu'il y a eu cinq films, il me semble, chacun réalisé par un réalisateur différent.
Cinq ou six.
Avec, ouais.
Et la productrice qu'on a...
Cécile Roger-Machard,
ouais. Voilà, qui a travaillé au départ comme assistante avec Christophe Izard sur TF1, ouais. Et s'est spécialisée dans les émissions jeunesse, et après a voulu étendre ça en faisant du ludo-éducatif, c'est-à-dire donner envie de lire en proposant des séries aussi bien actuelles que dynamiques.
Et elle a fait beaucoup de choses encore après, Cécile.
Qu'est-ce que c'était bien. Quoi donc? Moi, j'adorais Les Six Compagnons.
Ah, mais Les Six Compagnons, moi, c'est un souvenir formidable.
Avec Jérémy Covillo, notamment.
Mais toute la bande.
Fabrice Josso.
Fabrice Josso qui jouait Michel.
Non, ouais. c'était Michel, c'était pas Les Six Compagnons. Mais ouais. Là, c'est un souvenir. Ce film-là, en fait, parce que c'était un unitaire, en fait. Hein. C'était dans une série, mais c'était comme un unitaire, puisque c'était l'adaptation d'un roman.
D'un roman, oui.
C'était un souvenir vraiment, vraiment, vraiment formidable, parce que, bon, d'abord, il y avait ces gamins sensationnels. Je regarde encore par là-bas, mais il y a plus d'images.
Ça va arriver, t'inquiète pas, il y en a d'autres. On a encore des surprises pour toi.
Et non, c'était vraiment... en plus, c'est de souvenirs d'équipes aussi, d'équipes techniques. Je me souviens que tous les décors avaient brûlé la veille du tournage. Les décors se sont tournés dans la nature.
Ouais,
tous les décors avaient brûlé, il avait fallu se retourner. Bref, c'est des histoires de fabrication de films qui me remontent comme ça. Là,
j'ai quelques épisodes à la maison, je te les enverrai. Je les ai retrouvés, et si tu ne les as pas, je te les passerai. Bah,
celui-là, en tout cas, il m'intéresse vraiment. Parce que,
ah bah oui, je l'ai.
Et tu l'as sous quel
favori? Oui, on en discute après l'émission. Pour faire la passerelle, et ça me fait beaucoup de plaisir parce qu'on l'a reçu encore il n'y a pas très longtemps, entre les années 80, avec des émissions jeunesse qu'on a aimées, évidemment, Récréa 2, pour ne citer qu'elle, et puis la période des années 2000, il y a une série qui le symbolise, et le générique marquait toute une génération. Une animatrice de ces émissions-là a joué dedans. Tu l'as même dirigée, je crois bien. On va regarder le générique et puis on en parle après.
peux dire juste une petite bricole, Alexandre.
Ouais.
Dans cet épisode-là, il me semble, je ne sais pas si
vous avez
entier, dans, oui, des six compagnons au concours épique, il me semble qu'il y a une participation de Dany.
Ah, voilà. C'est possible.
Ouais.
Et ben donc, je vais regarder.
Voilà, je vous le dis comme ça.
Je vais regarder ça.
Ça peut vous intéresser.
Ah, oui, on va regarder ça. Voilà. Série suivante, regardez sur laquelle notre ami Laurent Lévy a travaillé. Là aussi, ça va forcément lui rappeler des souvenirs. Ah là là, mon Dieu. C'est Marie. Et c'est Marie Dauphin qui était là. Marie Dauphin, ancienne animatrice évidemment de Récréa 2. Et puis je embrasse ma copine Sarah-Laure Estrania.
Bah oui,
qu'on a découvert et qui aujourd'hui est une super réalisatrice elle aussi.
Ouais, elle réalise.
Et qui a démarré avec toi, petite fille de 10 ans.
Ouais. Et là, c'est marrant parce que donc Sarah-Laure qui est devenue réalisatrice, et il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par un jeune homme qui s'appelle Maxime Donzel, qui jouait aussi, qui faisait partie de la bande. Et Maxime est devenu, il a voulu me voir parce qu'en fait, il m'a dit, bah, écoute, moi j'étais tout jeune comédien avec toi, etc., et avec Sarah-Laure et toute la bande. Et ça m'a donné la passion du métier de l'écriture et de la réalisation. Il est devenu réalisateur. Il a fait notamment une série qui s'appelle Toutou Youtou.
Ah oui, si pour OCS.
Pour OCS.
Tout à fait.
Et pas seulement. Je crois qu'il écrit et qu'il réalise d'autres projets qui sont vachement bien. Et voilà, Maxime, qui faisait partie des gamins de...
J'ai raté ça, moi. Donc, quand j'ai vu Toutou Youtou, je vais avec...
Maxime Donzel, qui est dans les épisodes.
Avec Alex Chabarlier, dans Toutou Youtou, qui joue dans les années 80, une fille qui devient prof de... qui est sportive et qui devient espionne aussi par la même occasion. Qu'est-ce qu'on apprend comme réalisateur sur toutes ces fictions finalement? Qu'est-ce que t'as appris?
Moi j'ai appris mon métier de réalisateur d'une certaine façon. Je l'avais déjà appris en tant qu'assistant auparavant. Là j'ai appris à rencontrer des comédiens. J'ai appris aussi dans ce monde de l'audiovisuel à faire la part des choses entre la création, le beau, l'esthétique, et aussi l'industrie. C'est-à-dire comment être capable de reproduire un modèle et un modèle de qualité, un modèle de fabrication qui soit un modèle de qualité, le reproduire et le transmettre le reproduire plusieurs fois et le transmettre au public.
Au sens américain du terme.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris que le mot industrie n'était pas forcément un mot négatif, qu'il pouvait tout à fait bien accompagner l'art et la création. Je crois que c'est ça que j'ai appris en faisant des séries, et c'est ça que j'ai appris dans mon métier de réalisateur. Après, il y a la technique, il y a les techniques de travail, mais ça, je dirais que c'est pas le plus compliqué. Enfin, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est pas le plus compliqué. On a des appétences pour ça, du goût pour la technique, on l'apprend assez vite. Il faut évidemment avoir la santé, il faut avoir du goût pour le travail avec les comédiens, il faut avoir tout ça, mais le plus important c'est de se dire qu'on est dans une trajectoire, enfin pour moi, qu'on est dans une trajectoire personnelle qui combine l'art, la création et puis la transmission. Bon, pour dire les choses un peu largement comme ça.
Et d'ailleurs, on va le voir sur la dernière série dont on parlera tout à l'heure, qui illustre ce parcours-là, que ça a été évidemment quelque chose qui va devenir très 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 important, notamment quand tu vas œuvrer avec une grande société de production qui s'appelle Marathon, parce qu'ils avaient mis en place cette folle industrialisation.
Et on l'a fait ensemble.
Et vous l'avez fait avec eux, on va en parler dans un instant. Ouais. Auparavant, petit focus sur la première télé d'un jeune acteur appelé à grandir, un certain Laurent Dutch, sur une coproduction avec le Québec. Et j'embrasse notre ami Simon des Costeaux qui était venu là et qui avait signé un formidable livre sur les séries produites pour la jeunesse au Québec.
Simon Portelance.
Simon Portelance, qui était venu nous en parler, qui a signé un formidable livre sur sa série produite par la jeunesse, mais au Québec, sur une chaîne dédiée, et qui évidemment connaissait les Intrépides. Regardez, ça va forcément là aussi vous rappeler des souvenirs. Il était sympa, le petit Laurent Dutch, déjà à cette époque, regardez.
Tant et Julie sont à l'écoute pour partager du secret. L'école terminée est tout.
très 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 bon souvenir. Hein.
Ah ouais.
Très bon souvenir.
Coprod entre la France et le Québec.
Et le Québec, oui, c'est ça. Et,
ce qui, pardon, va devenir un modèle par la suite à la télévision française, parce que je pense à des séries comme Highlander, qui ont été sur TF1 et M6 et qui vont poser ce process qui permet de tourner un peu en France, un peu au Québec et de se partager les coûts de production.
Ouais, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là et je pense que la société de production dont tu parlais tout à l'heure, Marathon avait déjà tenté l'aventure juste avant d'une autre série en coproduction avec l'Italie, l'Angleterre, c'était le lycée alpin.
Le lycée alpin sur lequel tu as travaillé. J'ai pas trouvé d'image, mais...
J'ai pas trouvé d'image du lycée alpin, ouais. Le lycée alpin qui était aussi très passionnant. Ouais, c'était une expérience formidable. J'en ai reparlé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps Pascal Breton, qui est le patron, le copatron avec Olivier Brémond de Marathon, qui aujourd'hui est le boss de Fédération, Pascal. Et ils ont eu tous les deux ce talent de produire. Et de produire des séries en nous laissant vraiment une très très grande liberté de manœuvre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui me frappe aujourd'hui quand je pense à toutes ces séries-là, c'est qu'on avait une liberté d'action, de manœuvre, de réalisation avec un cadre qu'il fallait respecter, évidemment, un cadre de production. Il ne s'agissait pas de déborder, de faire des heures supplémentaires en veux-tu en voilà et de claquer l'argent du contribuable, puisque c'est de ça dont on parle parfois, à l'envi. Non, il fallait faire attention, mais on avait quand même une liberté de création, c'est-à-dire qu'à partir du scénario qu'on nous confiait, des acteurs que nous choisissions, hors les acteurs vedettes, bien sûr, les acteurs que nous choisissions, eh bien, on avait la liberté totale de s'organiser comme on le voulait, de tourner comme on le désirait, d'imposer une marque, un style. Et c'est ça qui finalement faisait, à l'arrivée, qui fédérait, qui faisait une unité qui était à mon sens assez unique. On retrouve plus ça tellement. J'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus marketées qu'elles ne l'étaient à ce moment-là, même pour les séries.
On se posait peut-être moins de questions qu'on ne s'en pose aujourd'hui. Il faut une efficacité rapide. Oui,
oui, justement, voilà, rien n'était aussi écrit que ça peut l'être aujourd'hui. Mais est-ce qu'on travaille de façon différente avec des enfants, des ados, des adultes? Il doit y avoir un cadre, un peu, une façon de leur parler ou de diriger?
Bah, c'était, en ce qui me concerne, c'était plutôt intuitif. Ouais. C'était plutôt intuitif. D'abord, moi, j'étais très jeune. Et donc, il n'y avait pas une grande différence d'âge entre Laurent Deutsch et moi, même si à l'image, ça faisait une différence. Mais on avait peut-être 10 ans, 12 ans d'écart. Ouais. Donc, ce n'était pas une différence considérable, ce qui fait que le dialogue était quand même beaucoup plus simple que quand on a une différence d'âge très marquée. Donc, c'était très intuitif, mais il n'y avait pas de coach, autant que je me souvienne. Il n'y avait pas d'encadrement. Enfin, pour Laurent et pour Jessica Barker, ce n'était pas la même chose pour la baby-sitter et pour les épinards, où là, il y avait quand même, non pas un coaching, mais où il y avait quand même des encadrants, puisque les enfants n'allaient pas à l'école. Donc, ouais. Forcément, il y avait un petit encadrement scolaire ou périscolaire qui était là pour pallier à l'absence de ce milieu scolaire. Mais sinon, pour ce qui est de la direction d'acteurs, direction des enfants, c'était intuitif. En ce qui me concerne, purement intuitif, basé sur ma connaissance du métier, mes références personnelles, mes envies d'obtenir certaines choses, et puis essayer de capter l'énergie de ces jeunes gens qui en ont, une énergie folle, quoi. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question,
oui,
hein, mais non, il n'y a pas de méthode particulière. Enfin, moi, j'avais pas de méthode, je ne me suis pas dit, tiens, voilà, je vais travailler avec des enfants, voilà comment il faut s'y prendre. Aujourd'hui, je ferais peut-être différemment. Je ferais peut-être différemment. Mais j'aurais d'autres contraintes, je pense.
Oui, certainement.
Alors, comme point culminant de tout ce travail qu'on a vu là, et comme annonciateur de ce qui va arriver par la suite, puisque Laurent va participer à la création d'un des plus longs soap de prime time ou d'access prime time de l'histoire, devant Dallas, devant Côte Ouest, devant Dynasty, c'est Sous le Soleil, qui en nombre d'épisodes a dépassé évidemment ses homologues américains. Il y a une série qui vient juste un peu avant, produite aussi par Marathon, qui va permettre de lancer un petit peu ça, cette génération, ce modèle-là. C'est Extrême Limite qui passait l'été sur TF1. Alors attention, parce que moi je choisis jamais la facilité. Évidemment, vous connaissez les génériques d'Extrême Limite, sauf que au début, il y avait un autre générique d'Extrême Limite qui n'a pas duré longtemps, qui a duré, je crois, que pour 5 ou 6 épisodes. Et ben, moi, je vous dis de vous faire écouter plutôt ce générique-là qui est plus rare. Regardez et écoutez. Extrême Limite. Dans un rêve qui m'emmène toujours plus haut. 1993, le tout premier générique d'Extrême Limite, du tout premier épisode, et qui va présenter cette nouvelle génération de comédiens, je pense à Todia Kissinger pour ne citer qu'elle, qui vont après devenir les fers de lance de ouais. Sous le Soleil.
Ouais. Ouais.
Sacrée expérience. Hein. On rappelle, on est dans une académie de sport au Cap Estérel, et on suit les aventures de ces jeunes au sein de cette académie. Ce sera aussi la première télé d'Astrid Veillon.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'Extrême Limite, c'était je ne sais pas si on dit préquel ou non, c'était le post-quel de la série que j'évoquais tout à l'heure.
Le lycée alpin.
Le sequel, c'est ça, voilà. Je cherchais le...
Carrément.
Oui, je pense que c'était vraiment le sequel de Lycée Alpin, parce que Lycée Alpin, c'était une série qui se passait donc à la montagne, dans un lycée sportif, mais à la montagne. Et il y avait aussi une équipe de jeunes gens qui traversaient différentes aventures tout en pratiquant des sports extrêmes qui étaient des sports de glisse plutôt, mais donc à la montagne.
C'était vachement bien Extrême Limite. Moi j'adorais, on le retrouvait que l'été et c'était vraiment super.
Bah, c'était super. Et puis alors là, pour les réalisateurs, ce qui était, enfin pour moi en tout cas, ce qui était fascinant, c'est que bon, d'abord, c'était le début d'une industrie, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque chose qu'on avait commencé à mettre en place avec, mais tout doucement avec les Intrépides. Et là, ce qui s'était mis en place, c'était un travail de double plateau. Double plateau, c'est-à-dire qu'il y avait deux équipes qui travaillaient en parallèle dans des décors différents, mais qui se partageaient. Toi, tu tournes de 8h à midi dans la salle de sport, pendant que l'autre équipe, au même moment, est à l'extérieur en train de faire des scènes de plongée sous-marine. Et ensuite, l'après-midi, on inverse. Et voilà, ça se passait comme ça. C'était relativement harmonieux. C'était déjà un bon bazar à organiser. Mais ce système d'industrialisation de qualité, il a été développé et pérennisé par la suite sur Sous le Soleil.
Et là, il fallait, parce qu'il y avait 40 épisodes par an à sortir. Hein.
40 épisodes par an à sortir.
En dehors de la période estivale.
En dehors de la période estivale, puisqu'on était logé dans les locaux de Pierre et Vacances à Cap-Estérel, et ensuite à Saint-Tropez, enfin dans la région de Saint-Tropez pour Sous le Soleil. Et donc, ça ne pouvait pas être pendant les vacances d'été. Donc, ça, c'était impossible.
Et donc, dans les deux cas, il fallait que les comédiens s'adaptent aussi aux conditions climatiques. Parce que se baigner, notamment, je pense à la plage du Saint-Tropez, où ils sont toujours habillés comme si... Parce que pour l'international, il faut qu'il fasse toujours beau.
Oui, oui.
Et c'est comme à Demain nous appartient aujourd'hui à 7. Il faut toujours qu'il fasse beau. Et donc, il fallait que les comédiens se baignent dans l'eau à 12 degrés.
Oui, ça fait partie des contraintes du métier de comédien. C'est pas toujours un métier facile.
Pour un Saint-Tropez, ça va.
Oui, voilà. Il y a des avantages par ailleurs. Mais quand même... Non, quand il fait froid et quand on est en tenue légère pour les acteurs, c'est pas toujours évident, mais c'est sûr.
Quel pan de télévision quand même ça représente, c'est 10
c'est
ans,
énorme, ouais,
c'est 10-15 ans finalement.
Ouais, c'est énorme, effectivement.
C'est tout un laboratoire qui permet à la fiction française d'être un petit peu aussi ce qu'elle est aujourd'hui. On a tendance à souvent citer le prime time, mais il y a cette fiction de journée qui n'est pas le détail qu'on connaît aujourd'hui, mais qui a façonné quelque chose.
C'est très juste. Sont passés par là, je ne parle pas pour moi, mais sont passés par là beaucoup de talents chez les comédiens. Pas
en production, chez les auteurs.
Chez les auteurs, chez les auteurs-réalisateurs, chez les acteurs, bien sûr, évidemment.
Tout à l'heure, on voyait dans une des séries, Dominique Lancelot, elle devient directrice de collection, elle crée section de recherche qui dure 15 ans.
Dominique Lancelot, c'est elle qui avait écrit Les Six Compagnons au concours hippique, avec Jean-Louis Tribe, je me souviens bien. Jean-Louis qui était acteur, Jean-Louis d'ailleurs. Et sur Sous le Soleil et sur les séries qui ont précédé, effectivement, on a vu passer énormément de gens, des comédiens. Bon, mais on a vu Laurent Deutsch, Marion Cotillard qui était dans Extrême Limite, Vincent Cassel qui est dans Les Intrépides, etc.
Avant la haine.
Pardon. Avant la haine. Oui, mais c'est les tout débuts. Hein. Ouais. Vincent Cassel, moi j'étais allé le voir au théâtre. C'est comme ça que je l'avais engagé pour faire Les Intrépides. Je reviens un tout petit peu en arrière, mais j'étais allé le voir au théâtre parce que ma copine de l'époque, Stella, jouait dans une pièce avec un jeune comédien qui s'appelait Vincent Cassel. Elle m'a dit, viens le voir. Mise en scène par Xavier Duringer, qui nous a quittés.
Le grand Xavier Duringer.
Qui nous a quittés récemment aussi. Et donc voilà, j'ai dit, ok, viens. Il y avait Eric Savin aussi dans la même bande. Et donc ces gens-là nous ont rejoints. Et,
Alex Savin, qui est un formidable comédien.
Pardon ?
Alex Savin, qui est un formidable comédien.
Ouais. Oui, donc c'était vraiment une pépinière de talents. Et il y a beaucoup de réalisateurs qui ont réalisé des épisodes de ces séries-là, qui ensuite ont fait un chemin impressionnant pour certains d'entre
eux. Dont Laurent Lévy. Qui nous parlera tout à l'heure effectivement sur l'actualité. On en parlera à la fin de l'émission dans quelques minutes. Mais voilà, belle télévision, cette belle télévision sur laquelle on voulait revenir aujourd'hui. Et en guise de salut, j'aurais presque envie de dire... Tout le monde se lève pour... Non, c'est pas le même.
C'est pas bon.
C'est pas le même. Tout le monde se lève pas pour Mamie Nova. Mais non. Non, évidemment. Parce qu'on va terminer cette émission. Évidemment, on reparlera de ton actualité dans un instant, mais avec Arnaud.
Oui.
Parce qu'il revient chaque semaine sur une marque. Mais je me suis trompé, c'est pas elle.
Mais non, mais je me suis dit, après Papy Brossard, la mère Denis, tonton mayonnaise, le tata yo-yo. Non, mais enfin, voilà. Dans la famille, on va demander la mamie, quoi. Et donc, je me suis dit que ça aurait pu être intéressant de mettre l'accent sur cette marque qui existe toujours, pour une fois.
Et
qui a évolué. Oui, voilà. Donc, je vous ai apporté, comme d'habitude, des petites choses qui ont été faites à l'époque. Donc, vous avez Mamie le sac, Mamie Nova, voilà, pour aller faire ses courses.
Alors, je vais nous en parler, mais on va découvrir déjà un premier jingle, peut-être.
Oui, absolument. Une première publicité, voilà, une des toutes plus vieille que je possède dans mes archives, et on va regarder ça.
On regarde ça tout de suite, regardez.
Et la bobinette, et la chevillette, tu erras.
Où est la bergrande du petit chapeau rouge?
Ici, c'est Mamie Nova, mais assieds-toi. Tiens, une crème dessert à la vanille.
Et encore.
Au chocolat aussi, c'est bon, hein? Ouf, il a préféré mes bonnes crèmes dessert.
Oui, c'est bon.
C'est surréaliste.
Tout un programme. Mais oui, on reconnaît à l'oreille Micheline Dax et puis Francis Lax aussi. Ouais. Donc voilà, des grands noms qui se prêtaient au jeu de donner vie comme ça à ces personnages. La marque est née en 1949, donc avec une volonté d'associer les produits laitiers de l'époque et d'en faire une sorte de groupe. Ce groupe donc a s'appelait le Gamma. Donc c'est le groupement d'animation des marques alimentaires qui ont donc créé un mouvement qui s'appelait Gamma Nova. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire une... Il y a un truc qui s'est lancé.
Ah oui.
Oui, mais j'en parle un petit peu trop. Ça,
non, on va en parler tout à l'heure, mais oui, c'est pas grave.
Mais et donc ils ont.
C'est une chanson sur Mamie Nova.
Oui, c'est une chanson sur Mamie Nova qui existe par Chantal Goya. Et donc ils ont créé ce groupement Gamma Nova et ils ont dit, bah tiens, on va trouver une égérie et puis on a pris une mamie pour le côté sympathique, confiance, rassurant, en disant tiens, tu es pas bien, mange un petit yaourt de Mamie Nova. Et ça a lancé cette publicité. Et la marque a été créée en 1969 pour de bon. Mamie Nova a été déposée. Et donc c'est pas si vieux que ça finalement. 1969. Moi non plus, mais les publicités que l'on vient de voir avaient à peine 10 ans de plus. Et ça a créé comme ça dans l'inconscient collectif des yaourts de qualité qu'on peut manger parce que validé par mamie. Et voilà, regarde la suivante.
C'est super visuel. Regarde,
oui, c'est super visuel. C'est... Voilà, avec une mamie en robe bleue et.
Et son gros, sa belle touffe blanche.
Ben oui, cheveux gris et qui inspire confiance. Quoi. On a envie de la connaître, cette mamie.
Deuxième publicité qu'on vous fait découvrir sur l'univers de Mamie Nova. Regardez, souvenir.
Non, j'en veux pas, j'en veux pas. Elle doit perler à la poudre d'Ipenfer.
Non. Dessert à bras cadabra.
Mamie Nova, tous, il faut rien que de m'embêter.
Voici des bons yaourts au lait entier et des bons desserts à la crème fraîche.
Toi, tu sais ce que j'aime, mamie. Merci, Mamie Nova.
56 minutes.
Ils font peur, hein.
Ouais, ça fait
Roger Pierre, Philippe Castelli, je crois qu'on entend.
Philippe dans la voix, ouais. Qu'on entend, et puis la mamie qui arrive, c'est une sorte de planche à roulettes là, parce qu'on la voit pas marcher. Ça fait un peu peur, oui, effectivement. Des pots en paraffine, comme on avait à l'époque, et puis le logo Nova, donc que vous avez pu voir là, voilà, qui était comme ça. Je vous montre bien. Voilà, donc et après, bah, c'est devenu les yaourts Nova existent toujours aussi. C'est plus dans les cantines aujourd'hui, mais il y a cette marque qui est devenue Mamie Nova. Vraiment, on a associé la grand-mère. Ouais. Et puis, alors, on l'a entendu tout à l'heure. Voilà, Chantal Goya s'est prêtée au jeu aussi. Pourquoi? Parce qu'en 1984, donc la marque évolue, hein, 15 ans plus tard.
Tu veux qu'on l'écoute?
Et on peut l'écouter.
On peut l'écouter peut-être. Tu nous remets le petit son qu'on avait tout à l'heure.
J'avais le 45 tours en visuel aussi. Voilà.
Qui prépare pour eux avec amour tout ce qu'on aime nuit et jour.
Eh ben oui, et puis le refrain reprend le logo de l'époque, le slogan pardon de l'époque, c'est merci qui, merci Mamie Nova.
Quand elle vient d'ici, qu'elle nous la chante.
Ah bah. Attention.
Merci qui, merci Mamie Nova. C'est du Chantal Goya pur jus. Ah,
Jean-Jacques Masson.
Pur yaourt. Mais...
Ouais, pur yaourt, voilà, pur crème.
Ah ouais, non, c'est surréaliste. Voilà,
bah, on va voir la pochette. On va voir la pochette du 45 tours. Et alors, ça s'est vendu, oui, et c'était offert. Donc, pendant le spectacle en 1984, c'était dans l'entracte. C'est-à-dire que Chantal se reposait pendant l'entracte et les personnages arrivaient sur scène. Il y avait notamment Guignol qui dansait et un personnage en Mamie Nova, puisque c'était le sponsoring, la collaboration publicitaire, pour parler français, de ce spectacle qui était Le Merveilleux Voyage de Marie-Rose.
Ah, oui.
et le disque était offert aux enfants. Et,
je ne l'ai pas vu, moi, je ne comprends pas. Je suis
On va le voir.
Il va arriver tout à l'heure.
Arrivé, ouais, il va, voilà,
et on a quand même un troisième.
Ah bah avant cela aussi, on avait cette force de Mamie Nova. Ça proposait des concours, c'est-à-dire des jeux concours. Donc il y avait pas mal de choses à gagner, des produits dérivés. Donc qu'on a pu voir un petit peu là, j'en ai un aussi très rigolo. C'était un carnet de notes. L'ancêtre des post-it. Et il fallait, oui, devant moi là, voilà, dans mes mains. Et il fallait soulever la jupe de Mamie Nova. Alors bon, on voyait rien. Et puis il y avait donc des notes. On pouvait prendre le calepin. Alors c'était pour les mamans. Regarde, alors tu vois, tu pouvais faire des notes sous la jupe de Mamie Nova.
Bah, dis donc,
c'est pas très bien quand même.
Moi j'étais tout jeune, hein, c'est pas de ma faute. et donc voilà, on pouvait collectionner des puzzles aussi avec les points qu'on achetait. Donc il y avait vraiment une volonté de fidéliser, voilà, les puzzles. Et ça créait donc cette identité. C'est la pub rentrait dans les foyers. Il y avait que 3 chaînes de télévision à l'époque, hein, et il y avait cette idée d'imprimer la marque dans l'inconscient collectif et de l'ajouter au jeu, au côté familial vraiment de la chose. Donc il y a une autre pub qu'on peut
regarder. Allez, troisième pub, allez. Regardez.
Pour plaire à tous les gourmands, Mamie Nova a besoin de lait, de fruits et de chocolat.
Bonjour Mamie Nova.
Attends-nous Mamie Nova, attends-nous.
Mais son secret, c'est qu'elle est gourmande. Et voilà pourquoi mousse au chocolat et à la crème fraîche, yaourt aux fruits et petits fromages frais sont si réussis. Mamie Nova, elle a le secret des bonnes choses.
Ouais. Toujours Roger Pierre.
Et toujours Roger Pierre. Vous remarquerez que Mamie Nova ne parle pas, on ne connaît pas
c'est
ça.
Non,
elle ne s'exprime pas. Et c'était l'époque aussi où les publicités coûtaient trop cher en images de synthèse, c'était les balbutiements. Donc beaucoup privilégiaient la petite ritournelle, la musique et bien sûr le dessin animé. Et ça colle forcément pile avec les enfants, quoi. Voilà. Et c'était ça, Chantal Goya. Enfin, tout cette, il y avait une sorte de volonté en 360 degrés de toucher la famille, les enfants, les Chantal Goya et les disques. Et hop, et on achète les yaourts.
Et on a une quatrième.
Alors le quatrième, alors là oui, bon, le quatrième c'était une petite évolution dans la marque, puisque en 1988 on a une volonté de se tourner autrement, de présenter autrement la marque, et la publicité qu'on va voir a été tournée par Édouard Molinaro, qui est donc un grand réalisateur. On lui doit des films comme Hibernatus, Oscar, L'Emmerdeur, la Cage aux Folles si je dis pas de bêtises, et il a décidé d'axer ça sur les mamies et non plus sur les enfants. Et là bien sûr il y a ce slogan qu'on je vous laisse découvrir, qu'on connaît tous.
Mamie Nova, il n'y en a plus que pour eux. Depuis le temps. Mais quel âge est là au juste?
Ouh. Hier, je fais une mousse au chocolat pour mon petit-fils. Vous savez ce qu'il me dit?
Je veux du Mamie Nova. D'autres claques, oui.
Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci.
Voilà,
c'est
il fallait oser quand même.
Ça, c'est bien. Ça,
c'est bien.
Ça,
c'est bien. Il y a eu d'autres pubs à l'époque aussi réalisées par Claude Miller. Donc, c'était vraiment des grands noms. On faisait appel à des pointures, quoi, pour faire. Et cette volonté. Et René Fort qu'on a vu dans les grands-mères. Et alors là, c'est le début du drame. Un an après, on était en 1988. En 1989, l'agence de pub se dit tiens, on va peut-être essayer un autre truc. Et dans les magazines papier. Il y a une campagne de pub avec ce gamin qui a une tête pas qui possible super, et qui dit voilà, la mamie que je préfère est dans le frigidaire, et ça passe pas du tout quoi.
Non. Il y a un petit côté Francis Holm le gamin.
Mais c'est voulu, hein, de toute façon. Donc le drame arrive, donc la campagne ne passe pas du tout. Les mamies, les personnes âgées, on va dire le troisième âge ou le quatrième âge, montent au créneau.
C'est trop deuxième degré, ah, troisième degré.
Oui, voilà, ouais, donc ça sous-entend quand même une histoire de morgue et de la mamie au frigo. Donc
non, ils se sont marrés, les créatifs de l'agence se sont marrés,
mais sont marrés, figure-toi, pas longtemps, parce qu'ils ont tous été virés.
Ils ont tous été virés.
L'agence de pub a perdu le contrat et ils ont dit bon, bah alors stop, on arrête un petit peu. Et à partir de là, Mamie Nova a changé aussi de son fusil d'épaule et son axe et sa cible, sachant aussi qu'à vers 1990, ils ont été rachetés par le grand groupe Andros. Aujourd'hui, ça appartient toujours à Andros et à un grand groupement laitier qui s'appelle Leita. Et ils ont dit tiens, on va peut-être axer la communication autrement. Donc il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de Chantal Goya, et il y a une volonté plutôt de présenter les yaourts comme quelque chose de premium et de bonne qualité. Donc ils ont rajouté un peu plus de matière grasse, voilà. Et le slogan c'était ça, c'est-à-dire que c'était la séance de psy la moins chère de l'univers. Et,
qu'est-ce que c'était bon ça.
Eh bien oui c'est bon, et puis donc on voit bien sûr le divan derrière. Ah, et,
tout petit le divan.
Avec le slogan, Mamie Nova, il n'y a que toi qui me fais ça, et ces publicités ont changé de braquet, et par exemple été publiées dans Psychologie Magazine. Et donc il y avait cette idée de se dire, bah tiens, tu vas mal, bah mange un Mamie Nova, elle va te réconforter, mamie, elle sait très bien, elle te connaît.
Tu m'en as apporté?
Alors oui, non. Alors je vous ai apporté, dans les trucs un peu rigolos que j'ai pu trouver, il y a la valise en métal qui a été faite, voilà, vous la voyez. Et donc il fallait collectionner des points et envoyer ça, et puis on recevait ce genre d'objet, et il y a eu des jeux de cartes.
Je sais pas ce qui est le plus bizarre, que des gens aient pensé à faire gagner ça à des enfants,
ou que je la possède.
Je ne sais pas.
Ben, je vous laisse le
bon de la fin.
Voilà, ouais. Et puis, donc, ce qui est chouette quand même, c'est que cette marque existe toujours, ça fait du bien. Il y a eu quand même des gros problèmes à l'époque, dans les années 80, des marques qui ont disparu, parce que, par exemple, la grossophobie, il y avait Gros Quick chez Nesquik, et donc avoir le mot gros pour une boisson sucrée ou pour du lait, voilà, pour les gamins, ça passe plus, et donc ils ont dit, bon, stop, Gros Quick, on arrête. Mamie Nova, voilà, il y avait peut-être cette peur aussi que la marque vieillisse, en disant, ça ne s'adresse qu'aux personnes âgées, et donc plus de mamie, mais finalement, c'est resté, heureusement. Il y a eu quand même quelques petits problèmes financiers, donc à l'époque, vers 2010, il y a eu des papiers très rigolos, donc tout le monde soutenait Mamie Nova, il y avait notamment Mamie fait de la résistance, en clin d'œil à Papy fait de la résistance. Donc voilà, je trouve que ça fait du bien de voir une mamie qui traverse les saisons, les années, et puis nous, on a grandi avec elle aussi, donc voilà pourquoi je tenais tant à la mettre en avant aujourd'hui.
Eh bien, on se lève pas pour Mamie Nova, mais enfin,
on peut
se lever. Bravo, merci mon Arnaud, on arrive au bout de cette émission. Mais on se quitte comme on le fait toujours en musique avec le Solitube. C'est parti, c'est maintenant. Yann. Exhumer un titre des limbes de la chanson française alors qu'il aurait mieux fait d'y rester, c'est le travail que s'est octroyé Arnaud avec notre Solitube toutes les semaines. On va voir la pochette d'un 45 tours apparaître à l'écran tout de suite pour pouvoir en parler.
J'ai voulu parler aujourd'hui de Zaya. Tout le monde se souvient de Zaya? Ben non, pas forcément. Mais
c'est pas la bonne.
Et si, c'est pas la même qu'on connaît,
c'est la
bonne pochette en tout cas.
Bande de petits cochons.
Et donc elle a sorti, nous sommes en 1985. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter.
Pas trop quand même, hein, on est au bout de l'émission. Hein.
Ouais, bon, alors je vais faire vite, je vais faire concis. Et donc il y avait cette rime en disant aïe aïe aïe, ça se passe mal, une histoire d'amour voilà, qui finit mal
en général.
Ouais. Et donc elle a sorti ce disque, Notre amour, aïe aïe aïe, notre amour sans l'ail. Et je vous laisse vraiment imprégnez-vous des paroles. Donc c'est sur la rupture et elle traite son ex de tout un tas de noms d'oiseaux très rigolos. Et bien sûr, moi, fan de Colaro, je vous ai trouvé un passage dans Colaro. Alors ça fait une sorte de rencontre d'alignement des planètes, voilà, un peu sulfureux.
Bon,
on regarde.
On y va.
On en parle.
Joue pas les macs, dit tête. J'ai plus ta nénette, ok, dac. C'est clair et net, j'te plaque. Fini les tendresses, j'suis plus ta gonzesse. Tu me les colles, les bouts. Tu me files des moules, peau de colle. Je deviens ma boule, j'affole. Je suis plus ta poupée, je ne veux plus t'aimer. T'es glauque un max, t'es plouc. Je n'aime pas ton look, pas relax. Tu pues le bouc, t'es flasque. Va te faire cuire un œuf, touche pas à la meuf. T'es plus grand, le plus blanc des chevaliers blancs. T'es le plus beau des gâchis, chérie. You make me shit, fuck you. Tu cocottes la frite et le ragoût. Tu piffes pas vite du genou. Notre amour sans l'ail, faudrait que tu t'en ailles. We'll be right back.
coque aussi sec. T'es qu'un mollusque, ah schmock. T'es devenu naze, tu gonflais, tu rases. Est-elle plus grand, le plus blanc des chevaliers blancs? Est-elle plus beau, mon salaud, t'étais mon héros? Toi qui m'avais donné des ailes, pecno, trou, duc, banane, poubelle. Blaireau, la joie, cajou, taudis. T'as fait le plus beau des gâchis, chérie.
T'as fait le plus beau des gâchis, chérie.
Voilà. Wow. Et alors, qui se cache derrière Zaya et derrière cette chanson? Vous avez peut-être reconnu quand même un style assez décalé, un monsieur, un grand monsieur.
Gotenner?
Mais oui, c'est Richard Gotenner. C'est Richard Gotenner d'ailleurs. Et Zaya, on m'a laissé entendre dire qu'elle était sa petite copine à l'époque.
Ah, bah ça, c'est dingue.
Et donc voilà, oui, moi j'aime beaucoup quoi. Enfin voilà, et je vous ai fait un petit florilège des paroles que.
Alors je les mettrai dans le truc parce qu'elles ne sont pas passées à la moulinette.
Ah bon, bah écoute, voilà, bon, donc elle dit pecno, banane, trou du poubelle.
Mais la chanson est marrante, mais en revanche, si je peux me permettre, le visuel de Codaro, ça a pris un sacré coup.
Ça a pris un coup dur.
Pas un bon coup.
Tu penses bien que c'est pour ça que j'ai choisi l'extrait.
Sinon, c'est pas drôle.
C'est emblématique du Solitude, mais bon, voilà. Elle en a fait d'autres. Elle a fait un autre disque qui s'appelle Amour Nautique. Elle a fait quelques passages télé. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Yaya, notre amour sans l'ail. Voilà, à un moment, elle dit You make me shit, fuck you. Tu cocottes la frite et le ragoût. Okay. On reconnaît bien du côté.
C'est Gotenner.
Pourquoi a-t-on oublié Zaya? Reviens, Zaya.
Reviens, Zaya. J'allais même à la maison. Merci beaucoup, mon
plaisir,
pour ce choix encore judicieux pour le Solitude. Je rappelle que notre ami Umut Köker est actuellement toujours au Métropole à Paris. Il faut aller le voir. Ouais. C'est un garçon qui est brillant. Et puis toi, tu vas signer un prochain projet. Bientôt, en tant que réalisateur, tu reviens, avec un documentaire sur le. Enfin, c'est pas un documentaire, c'est une fiction sur la Révolution.
Non, c'est un documentaire. C'est pour la case documentaire. Donc, ils disent docu-fiction ou film hybride pour la case documentaire pour France 2, en prime time. C'est un film sur la Révolution française, sur un moment précis de la Révolution française, qui est la nuit du 4 août 1789.
L'abolition des privilèges.
La nuit de l'abolition des privilèges. Et j'adapte un roman de Bertrand Guyot, un roman sensationnel qui s'appelle L'abolition des privilèges.
Super.
Qui est d'ailleurs au théâtre en ce moment. Voilà.
Donc on sera à plaisir de...
ça devrait être bien.
Ça devrait être bien, ça j'en doute pas un seul instant. On en reparlera au moment de sa sortie. Mon cher Laurent, merci d'être venu parler avec nous de tout ce pan de la télévision. C'était passionnant de t'écouter et de revenir sur ces programmes
merci
et de dénicher ces petites pépites que tu as redécouvertes. Et puis on va parler donc pour les six compagnons au concours épique. Je dois avoir ce qu'il faut pour toi, pour retrouver. Merci beaucoup à la technique, à la réalisation, à la régie, à tous nos amis qui étaient derrière. Merci à Léo qui a accompagné... On se retrouve nous très vite, les portes du club se referment, mais rendez-vous la semaine prochaine dans une émission qui va être un petit peu spéciale.
Oui, attention, là c'est du Solitude pendant une heure là.
Oh putain, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, c'est lui qui a la manette la semaine prochaine, ça va être explosif. Je vous embrasse, merci mon nono,
merci
à Lola qui t'a quitté plus tôt, et à très vite, les portes du club se referment. Ciao ciao les amis,
salut.
Bye bye.